à mon tour, chers amis, de vous remercier et de remercier particulièrement la Fondation du Japon qui, grâce à l'initiative de notre ami le professeur Watanabe, a permis que je puisse revoir ce pays que j'ai, où j'ai vécu dans ma petite enfance, et j'ai eu la joie de reconnaître, en allant à Shuzenji, certains sites. Je me suis retrouvée chez moi, dans la maison de l'ambassade de France à Shuzenji, en retrouvant la véranda, mais je me suis dit, ça y est, mais c'est la maison. J'étais très heureuse, et je tiens beaucoup à remercier nos amis japonais qui ont permis cette retrouvaille. Alors, chers amis, je suis obligée de lire, parce que je ne suis pas une très bonne conférencière, je n'ai pas l'habitude, alors je suis obligée de prendre mon texte et de le lire. Qui était Paul Claudel en famille? C'est une question que je ne m'étais jamais posée, car un père ou une mère pour un enfant, cela va de soi, pourquoi chercher plus loin? Être l'enfant d'un homme public est une situation difficile et parfois douloureuse. Je crois que vous le comprendrez aisément. Découvrons donc ensemble cet homme dans l'environnement qui fut celui de sa jeunesse. Un père vosgien, une mère champenoise, donc tous deux issus de l'est de la France. La famille de Claudel est d'origine bourgeoise et non paysanne, comme on l'a dit souvent. Une petite bourgeoisie libérale du côté de la mère, médecin et notaire. Les cerveaux, nous dit-on, descendent par leur branche maternelle les vertus de Charles d'Orléans. Et Claudel évoquait souvent ce lointain ancêtre et confrère en poésie. Du côté paternel, les Français sont fonctionnaires le plus souvent. Des Claudel étaient également et sont encore industriels dans la papeterie dans la région de Gérardmer. L'enfance de Claudel se déroule jusqu'à l'adolescence dans de petites villes où Louis Prosper Claudel, conservateur des hypothèques, est envoyé par son administration. Bar-le-Duc, Nogent-sur-Seine, Vassy-sur-Blaise. Pour les vacances, la famille se regroupe à Villeneuve-sur-Fère dans la maison du grand-père, le docteur Athanase Cerveau, dont le frère a été curé du village. Cette maison de Villeneuve dans l'Aisne, près de Laon et de Reims, est encore la propriété des petits-enfants de la sœur de Claudel, Louise de Massary, qui avait épousé un magistrat. Son fils, médecin cardiologue, de son côté, avait épousé la fille d'Étienne Moreau-Nélaton, l'amateur d'art bien connu, qui a fait don au Louvre d'une importante collection de toiles impressionnistes. Mon grand-père, Louis Prosper Claudel, était un personnage fantasque et nerveux, qui vendra de belles et bonnes terres pour acheter des actions du canal de Panama. Ma grand-mère, Louise Cerveau, au contraire, fut une personne pondérée, à l'esprit pratique et d'une assez solide culture générale, je le souligne car cela était assez rare chez les femmes à l'époque. La sœur aînée, Camille, d'un tempérament passionné et excessif, ressemblait à son père. On dira plus tard qu'elle a inspiré le personnage de Marat dans l'annonce faite à Marie. Habitée d'une dévorante vocation artistique qui se réalisera dans la sculpture, elle entraînera sa mère, sa sœur et son frère à Paris, laissant le père seul à Compiègne. Camille a eu une forte influence sur Paul. Son caractère emporté a fait beaucoup souffrir le jeune frère qui n'avait pas le sens de la répartie et ne disposait d'autres armes pour se défendre des taquineries de ses sœurs qu'un mutisme boudeur et rageur. « Voilà Paul qui fait son profil », disait Camille quand son frère s'enfermait dans sa tour de silence. Il faut aussi évoquer mon arrière-grand-père, le docteur Cerveau. Il a laissé une importante bibliothèque qui, s'ajoutant à celle de son frère prêtre, a nourri les lectures du jeune Paul pendant ses vacances. Un inventaire de ce qui reste de ses bibliothèques, comme des livres de classe de mon père, a été fait par des chercheurs et montre l'importance de la culture de cette famille. Le décor de l'enfance. Il y a d'abord les calmes petites villes de province où Claudel fut parfaitement heureux, puis Villeneuve pour les vacances. À Villeneuve, les chambres donnent directement sur les tombes familiales du cimetière qui entoure l'église. Le climat est rude et le paysage aux vastes horizons de forêts et de champs est austère. C'est à cause de l'atmosphère qu'il a connue à Villeneuve, de disputes familiales dans une maison aux fenêtres souvent battues par le vent, la pluie et parfois la cloche des morts, que Claudel admirera tant plus tard les hauts de Hurlevent. J'ai connu Villeneuve, moi aussi, car j'y ai séjourné plusieurs fois à l'occasion des vacances entre ma grand-mère et ma tante Louise, quand mes parents étaient à l'étranger. Je n'ai pas souvenir de disputes, j'étais au contraire choyée. Mais on ne m'épargnait pas, par contre, les réflexions, pas toujours aimables, sur tel ou tel de mes frères et sœurs qui avaient eu le tort, en sautant sur des lits, d'en démolir les sommiers, ou sur ma mère, dont le défaut impardonnable était de n'être pas une Claudel. Chez ma grand-mère et ma tante, aucune démonstration affective, rarement un baiser, mais un dévouement total au clan et au devoir d'État. Ma grand-mère comprenait mal l'œuvre de son fils et pas du tout le talent de Camille. Par contre, grand-père, comme le prouvent des lettres de lui que nous avons publiées dans un cahier Paul Claudel, fut le premier et l'un des plus intelligents lecteurs de son fils, de même que Camille bénéficiait de sa confiance totale au point que la mort de son grand-père précipitera le drame de la folie chez cette pauvre femme. Il mourait en mars 1913 et elle était internée en avril de la même année. S'il n'y avait eu cette tragique conclusion à des années de labeur acharné sur une œuvre sculptée que tout le monde maintenant reconnaît comme étant celle d'une artiste de génie, Camille, qui avait été l'élève préféré de Rodin et son ami, serait considérée aujourd'hui à l'égal de son maître. L'inspiration du poète repose principalement sur le regard qu'il porte sur le monde qui l'entoure. Le matériau récolté par la vue ou l'ouïe était ensuite absorbé par l'intelligence, ruminé, transformé, pour devenir à son tour un monde recréé, l'univers de Claudel. Dans sa formation, il faut souligner le rôle joué par les merveilleuses histoires bibliques racontées dans sa petite enfance à Bar-le-Duc par une certaine sœur Brigitte, qui avait su capter l'attention des enfants grâce à de grands cartons coloriés illustrant l'histoire de la création du monde, de Joseph et de ses frères ou de Moïse, à la manière dont était instruit le peuple du Moyen-Âge par les vitraux des cathédrales qui jouaient à l'époque le rôle du cinéma ou de la télévision actuelle. Là encore, c'est par la vue que le jeune Claudel emmagasinait ses connaissances et en nourrissait son imagination. Parallèlement aux histoires de la sœur Brigitte, il y avait celle de la vieille bonne Victoire, dont un admirable buste nous reste fait par Camille. Il s'agissait de toutes les histoires et légendes courant dans le pays de Villeneuve sur le village et ses habitants. Une véritable saga du terroir était ainsi mise à la portée des enfants sous forme de récits plus ou moins cruels sur les habitants de Villeneuve ou leurs ancêtres. À Villeneuve et à l'atmosphère qui y règne se rattachent des œuvres telles que Tête d'or, La jeune fille violaine, plus tard L'otage. À propos de L'otage, le nom de Turlure, un des principaux personnages de la pièce, vient d'une grand-tante de mon père. L'arrivée à Paris vers l'âge de 14 ans, qui a arraché le jeune Paul aux racines qu'il avait jusque-là sustentées, fut une expérience difficile. Et les années passées au lycée Louis-le-Grand comptent parmi les plus arides et les plus tristes de sa vie. Coupé de son univers mythologique, il lui a fallu affronter l'abstraction de la culture livresque. Cette culture, cependant, l'a profondément marqué. Il suffit de feuilleter ses livres d'écolier avec les traductions écrites de sa main en marge d'un Lucrèce, par exemple, pour comprendre combien sa formation classique a été profonde. La découverte des tragiques grecs, de Virgile, de Shakespeare, a porté ses fruits dans des œuvres comme La Ville, la traduction de l'Orestie d'Eschyle, L'Endormi, Protée, etc. Pour remplacer les longues randonnées campagnardes, car la marche lui fut toujours indispensable, le jeune Claudel parcourait des kilomètres dans les rues de Paris qu'il traversait depuis le boulevard de Port-Royal jusqu'à Belleville en passant devant Notre-Dame. Ô ville, longtemps un homme entre les hommes est tel qu'un rien, j'ai heurté les trottoirs d'un lourd soulier. Le drame de la ville est le résultat de ces tristes méditations citadines, car si la solitude lui était supportable au milieu de la nature, elle lui était cruelle parmi la foule urbaine et les collégiens grossiers dans cette ambiance de bataille pour la vie, pour faire sa place au soleil que chacun de nous a à livrer un jour ou l'autre. Sécheresse totale. Pas étonnant alors que le hasard d'une halte à Notre-Dame un jour de Noël, profonde grotte, forêt de pierre, bruissante des chants des enfants et de la maîtrise, face sur le jeune homme de 18 ans, assoiffé de mystère, l'effet d'une gorgée d'eau fraîche dans la fournaise de son désert intérieur. Dieu lui a tendu un verre d'eau par la main de la Vierge de Marie et il n'en oubliera plus jamais le goût. Mal compris dans sa famille, rempli d'une curiosité passionnée pour un monde dont il devine les richesses, influencé enfin par la découverte de Rimbaud, dont la vie aventureuse est pour lui à la fois un stimulant et un exemple qu'il effraie et qu'il refuse de suivre, Claudel trouve une solution à son aspiration dans le choix de la carrière diplomatique où il entre à l'âge de 21 ans, après avoir été reçu premier au grand concours d'entrée au ministère des Affaires étrangères. Dès lors, pendant 46 ans, il parcourra les continents. Aucun des cadres où il vécut ne sera étanché à son œuvre. L'imbrication est totale entre son expérience d'habitant successif de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe et son inspiration poétique et dramatique. Ainsi, l'échange ne se conçoit pas sans les deux années passées à New York et à Boston en 1893 et 94. Connaissance de l'Est, partage de midi, le repos du septième jour, entre autres, sont nourris par l'expérience chinoise. La découverte du baroque à Prague donnera naissance à Corona Beninita Tisani Dei, feuille de sein, plus tard au soulier de satin. On ne peut dissocier le pain dur de Francfort et le père humilié de Rome. La cantate à trois voix est inséparable du paysage qui l'a inspiré, ces belles montagnes du Bugey où était situé le château d'Hostel, propriété de la famille de ma mère. J'ouvre ici une parenthèse pour parler de Reine Sainte-Marie Perrin, ma mère, que Claudel épousa en 1906. Elle était la fille de l'architecte de Fourvière. Quel curieux destin que celui de cette jeune fille, qui, après avoir vécu 25 ans à Lyon, sans avoir quitté cette ville autrement que pour passer des vacances à 70 km de là, l'entraînera le lendemain même de son mariage jusqu'en Chine. Il fallait un certain courage pour suivre cet homme rude qu'était Claudel, passer 45 jours sur un bateau à peine plus gros qu'un ordinaire cargo, être accouché en Chine de ses deux premiers enfants par un médecin de l'armée, traverser toute la Sibérie en 1909 avec son fils d'un an, mourant, qu'elle nourrira pendant 3 semaines avec de l'eau sucrée et sauvera, se retrouver à Prague et accoucher encore une fois en plein déménagement d'une fille reine qu'on installera dans une malle, le berceau n'étant pas arrivé. Mais ma mère a passionnément aimé cette aventure. Ce fut une très grande dame, une grande ambassadrice, qui sut admirablement seconder Claudel dans la tâche pour lui la plus ingrate, celle de la représentation officielle, dîner, réception. Au Brésil, naissent L'homme et son désir, ballet écrit pour Nijinsky, La messe là-bas, L'ours et la lune, Le soulier de satin. À Tokyo, Les 100 phrases pour éventail, L'oiseau noir dans le soleil, le vent, La fin du soulier de satin. À Washington, c'est le livre de Christophe Colomb. À Bruxelles, L'œil écoute. À Brangue, enfin, l'histoire de Toby et de Sarah. L'épée et le miroir, Pan et Syrinx. Et une grande partie de l'œuvre exégétique. J'en arrive au Claudel que j'ai connu. Celui qui, pour moi, ne peut être que papa. Dernière d'une famille de 5 enfants, élevée une partie de ma jeunesse dans des internats religieux loin de mes parents, ma vie d'enfant était totalement ignorante de Claudel écrivain. Pour moi, comme pour mes frères et sœurs, je crois, ce père exerçait surtout la profession de diplomate qui l'obligeait à passer avec sa famille ou seul la plus grande partie de l'année à l'étranger. En effet, pendant les 46 ans de sa carrière, tous ses postes ont été hors de France et généralement dans des pays lointains. En outre, chance incalculable pour un homme comme lui qui supportait mal les contraintes, il a toujours été chef de poste, sauf en 1893 et 94 aux États-Unis et 1 ou 2 en Chine. Il avait 50 ans quand je suis née et il était alors ministre au Brésil. Toute petite, j'ai été avec lui à Copenhague et l'ai suivi 2 ans à Tokyo, sa première ambassade. Mais le tremblement de terre de 1923 me fit repartir pour la France avec mes 2 sœurs. Enfin, j'ai passé 3 ans à Washington sur les 6 de son ambassade aux États-Unis et je n'ai pas quitté mes parents pendant la durée de leur séjour en Belgique. C'est l'été, pendant les vacances, que toute la famille se regroupait, soit à Hostel, dont j'ai déjà parlé, soit en Touraine où furent écrites les conversations dans le Loir-et-Cher, soit à partir de 1927 à Brangue, dans ce château que mes parents avaient acheté au bord du Rhône, dans une région où ma mère avait tous ses parents. Les séjours que j'ai faits enfant à Villeneuve m'ont permis de lire les livres mêmes que mon père et ses sœurs ont lus au même âge, qu'il s'agisse de Jules Verne, des collections du magasin pittoresque ou du Tour du Monde, des albums d'images d'Épinal que mon grand-père avait rapportés de son pays natal. Si je ne savais rien, jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, sur la face littéraire de la vie de mon père, les péripéties de sa carrière, par contre, ponctuaient notre vie familiale. Ainsi, on apprenait un jour que Washington remplaçait Tokyo. Un certain temps, le bruit courait d'une nomination à Berlin. Ou bien un télégramme arrachait l'ambassadeur à ses vacances pour aller porter le réconfort de la République à la malheureuse Guadeloupe ravagée par un typhon. Et je me souviens de l'excitation de tous quand on apprit qu'il voyagerait sur un bateau de guerre et se ferait accompagner par ma sœur reine. Les amis et visiteurs qui venaient à la maison étaient principalement des collègues ou amis rencontrés dans ces divers postes. Philippe Berthelot, secrétaire général des Affaires étrangères, que nous appelions affectueusement oncle Philippe, et sa femme tante Hélène, venaient régulièrement à Branques chaque été. À la table de mes parents dans les années 26-27, dans un appartement qu'ils avaient loué rue de Passy, j'ai vu se succéder, caché moi-même entre les mains d'un affreux hôtel chinois qui ornait l'entrée et se trouve encore à Branques, des célébrités comme Charlie Chaplin, Borotra, Cochet et leurs compagnons gagnants de la Coupe Davis, Paul Morand, Anna de Noailles. Celle-ci arrivait toujours en retard et donnait comme explication que son chauffeur, ne sachant lire que les numéros impairs, alors que nous habitions le 80, il était chaque fois extrêmement difficile d'arriver jusqu'à nous. La littérature proprement dite, cela se passait dans une pièce, le bureau, où j'avais rarement accès. C'est là que Claudel recevait les éditeurs, journalistes, metteurs en scène, amis et confrères comme André Gide, Guéon, Jacques Rivière, Jacques Copeau, etc. Pour vous donner une idée des rapports de Claudel avec ses enfants, voici à ma sœur aînée une carte postale datée de Flensbourg en 1920, où il résidait comme membre de la commission chargée de délimiter les nouvelles frontières entre le Danemark et l'Allemagne. Eh bien, ma petite chouchette, te voilà rentrée en possession de ta maman. J'espère que tu lui as fait une grande scène et que maintenant ton indignation est calmée. Moi, qui reste pendant des années entières sans vous voir, cependant, je ne suis pas aussi exigeant que toi. Comme je serai content de vous revoir tous, quelle partie nous allons faire ensemble, nous allons casser tout le mobilier. Ici, je peux vous rapporter deux faits de ma petite enfance. Je me revois à Tokyo, couché en même temps que mes deux sœurs dans notre grande chambre un matin d'hiver. Et mon père entre tout à coup et nous bombarde de boules de neige. Une autre fois, nous sommes tous les cinq à la queue leu-leu dans un couloir. Il nous précède à pas de loup et nous recommande le silence et la plus grande prudence. Nous arrivons ainsi le cœur battant jusqu'à une porte qui l'ouvre brusquement en poussant un rugissement et nous voyons éclairé sinistrement par la lueur jaune d'une lampe, la barbe blanche d'un vieux monsieur sur un tableau, vrai croque-mitaine. Hurlement de frayeur délicieuse de tous les enfants, il s'agissait simplement du portrait d'Hippolyte Taine. Enfin, à tous ses enfants comme à ses petits-enfants, mon père avait l'habitude, le soir, de raconter des histoires qu'il interrompait au moment le plus palpitant. Il fallait attendre le lendemain pour la suite et cela recommençait comme la veille, le secret étant que l'histoire ne devait jamais finir et toujours laisser une énigme à notre imagination. C'est vers l'âge de 14 ans que j'ai pris conscience de l'autre facette du prisme claudelien, exactement au 40e étage de l'hôtel Sherry Netherlands à New York. Mon père était allé faire une promenade dans Central Park. Je tombais par hasard le lendemain sur une feuille de papier couverte de son écriture. Il s'agissait du poème « Le Cygne » que je vais vous lire, inspiré sans doute par sa promenade de la veille. « Le Cygne, jour d'automne. Le cygne lent du cygne blanc a fait onduler le vide. Tous les temps, plein de temps, se mêlent à l'ange liquide. Sous la lance du silence frissonne le lourd miroir, c'est l'ennui plein de pluie, de la nuit qu'exhale ce prêtre noir. Feuille à feuille, une feuille touche la surface morte. Œil à œil, l'eau recueille l'étoile au ciel qui l'exhorte. Cette haleine, née à peine, sur l'onde où l'oiseau se mire, cette touche sur la bouche, d'une bouche qui expire, C'est un rêve qui s'achève, une larme dans un soupir. C'est le pli qu'on oublie d'une vie qui va finir. New York, 28 juin 1932. Cette lecture fut ma première émotion poétique. J'avais bien lu auparavant l'annonce faite à Marie, mais je n'avais pas établi le lien entre ce volume imprimé et mon père. Par contre, la découverte du poème, de la même écriture que celle des lettres que je recevais, d'un seul coup, a provoqué le déclic. J'avais un père, il était ambassadeur et il écrivait des vers. À partir de ce moment-là, j'ai ouvert l'œil et les oreilles. La plupart du temps, cependant, les conversations que j'entendais couraient sur les événements, comme à Washington, par exemple, à propos de la crise économique. Je me souviens d'un déjeuner avec des financiers français et américains, où toute la conversation a roulé sur les avantages et les désavantages du bimétallisme. Mon père parlait beaucoup, il avait l'air passionné, pas moi. Mais c'est à Bruxelles, puis à Brank, que je suis entrée de plein pied dans le monde poétique claudélien et que j'ai commencé à m'en imbiber. J'avais 16 ans lorsque mon père a été nommé ambassadeur à Bruxelles en 1933. Pendant les 2 années et demie que nous y avons séjourné, j'ai participé étroitement à la vie diplomatique mondaine et artistique de mes parents. J'accompagnais ceux-ci aux visites officielles organisées à Anvers, Liège ou Mons. À Mons, j'ai visité avec eux la cellule de Verlaine dans la prison de cette ville. J'ai regardé en même temps que Claudel le superbe triptyque de Gand, l'agneau mystique, ou à Anvers, la descente de croix de Rubens. J'ai assisté aux répétitions et à la représentation des Coéphores au théâtre de la Monnaie. J'étais là quand il a lu devant Paul Valéry deux passages à Bruxelles, Jeanne d'Arc au bûcher qu'il venait de terminer. J'ai donc suivi de près l'éclosion, par exemple, d'une de ses œuvres les plus importantes, L'œil écoute, dont le principal est fait d'un chapitre intitulé « Introduction à la peinture hollandaise » et que notre ami Watanabe vient de traduire et de publier, car j'avais accompagné mes parents à La Haye et à Amsterdam quand mon père avait décidé d'aller regarder les toiles des grands peintres hollandais. Aussi ai-je pour cette œuvre magnifique une prédilection particulière. C'est elle qui m'a donné la passion de la peinture et l'envie de peindre à mon tour, goût jusqu'ici inassouvi. Nous avons encore le tout petit carnet, agenda de poche, sur lequel il a noté ses premières impressions devant Rembrandt ou Nicolas de Maas. Celle-ci devait se transformer en de véritables récits dramatiques, tels l'analyse de la ronde de nuit, par exemple. La marche et la nage sont les seuls exercices que Claudel ait pratiqués avec un peu de cheval en Chine et au Brésil. Mais ces expériences équestres ne furent pas très heureuses. Il faisait aussi de la bicyclette avec ses enfants, mais il était extrêmement maladroit. C'est ainsi qu'un jour, à Copenhague, il est tombé à l'eau, à la grande joie de ses enfants. Qu'une autre fois, à Hostel, pays de montagne, il a descendu une route sans freiner une seule fois, et c'est miracle qu'il soit arrivé entier en bas. J'ai dit qu'à Bruxelles, j'avais assisté aux répétitions des Coéphores d'Eschyle dans une traduction de Claudel et avec une musique de Darius Milhaud. Le spectacle était dansé par Ida Rubinstein. Celle-ci lui commandera plus tard 2 œuvres, Jeanne d'Arc au bûcher avec la musique d'Arthur Honegger et le festin de la sagesse avec celle de Milhaud. Le décor et les costumes des Coéphores avaient été confiés à Audrey Parr, qui avait déjà en 1918 fait ceux de l'homme et son désir. Après la représentation au théâtre de la Monnaie, nous nous sommes tous retrouvés dans une grande brasserie de Bruxelles et la soirée fut très gaie. Darius Milhaud et sa femme, avec d'autres amis, nous avaient rejoints et Claudel, trouvant sur la table des œufs durs, s'est mis à écrire dessus de petits distiques du genre de celui-ci, hommage de l'auteur, qu'il distribuait aux dames qui l'entouraient. L'inspiration de Claudel lui était parfois commandée par des contraintes inattendues. Le meilleur exemple est celui de Jeanne d'Arc au bûcher. Cette œuvre, comme je l'ai dit, était destinée à Ida Rubinstein. Quelque peu effrayée par la réalisation que celle-ci avait faite des Coéphores, Claudel a cherché comment neutraliser les gestes de cet artiste et l'idée lui est venue de l'attacher à un bûcher pendant toute la pièce, lui laissant tout juste le droit d'ouvrir les bras en cassant ses chaînes au moment de la mort. Ensuite, c'était tout simple, il n'y avait plus qu'à faire dérouler l'histoire de Jeanne en flashback, la martyre revoyant toute sa vie sur un livre que lui lisait Frère Dominique. Il raconte quelque part que la première image qui lui soit venue et qui ait suscité le thème de Jeanne est celle de ses bras enchaînés traçant un grand signe de croix. Vision qu'il a eue dans le train entre Paris et Bruxelles. C'est certainement vrai, comme est vrai l'autre raison donnée précédemment. J'ai été plusieurs fois à Bruxelles témoin d'activités insolites dans le cadre officiel d'une ambassade. Par exemple, lorsque la Comédie française a monté l'otage, Claudel a eu l'idée de confier certains bruitages à une chorale qu'il admirait beaucoup, celle des Renaudins de Bruxelles. Les répétitions avaient lieu dans son bureau et il donnait lui-même les indications les plus minutieuses sur la façon d'imiter le bruit du vent et de la pluie contre les vitres de Coufontaine. Si des visiteurs ordinaires de l'ambassade se sont trouvés sur place à ce moment-là, nul doute qu'ils aient dû demander à l'huissier s'ils ne s'étaient pas trompés d'adresse. Autre exemple inhabituel, une grande sympathie réciproque s'était établie entre le roi Albert Ier de Belgique, la reine Élisabeth et mes parents. Cette amitié n'avait rien à voir avec les contacts officiels existants dans ce cas. La mort du roi, tué dans un accident d'escalade, avait beaucoup affecté mon père lorsqu'il a été salué la dépouille royale au nom du gouvernement français. Il ne s'est pas seulement contenté de se découvrir et de garder le silence un moment. Mais il a sorti son chapelet, s'est mis à genoux et a longuement prié près de son ami. Passons maintenant à Brangues, où j'ai assisté et parfois même joué mon petit rôle dans des scènes semblables à celles qu'on peut lire dans le soulier de satin, où Rodrigue fait dessiner par le japonais Dai Butsu les images qu'il lui décrit. C'est Audrey Parr, que nous appelions Margotine, depuis que Claudel l'avait baptisée ainsi au Brésil, comme Darius Milhaud, Henri Hopneau, ses deux collaborateurs, et Margotine elle-même l'appelait, lui, Cassie, chef. C'est donc Audrey Parr qui jouait le rôle de Dai Butsu, mettant au service de Claudel ses pinceaux et ses crayons. Ainsi ont-ils fait ensemble le décor et les costumes. Attendez, il me manque une page. Du Festin de la Sagesse. Nous faisions surtout avant la guerre de longues excursions en auto. La curiosité de Claudel, comme son besoin de mouvement, était insatiable. Nous partions des journées entières. Il buvait littéralement le paysage par tous les pores de son être et il en ressortait toujours quelque chose qu'on retrouvait dans son œuvre. Il faisait son miel. C'est ainsi que j'ai assisté à la naissance du poème « Pan et Syrinx ». Il avait découvert à la bibliothèque de Grenoble l'œuvre d'un poète inconnu, Pis, dont deux poèmes l'avaient intéressé. L'un était consacré aux 26 lettres de l'alphabet et l'autre à Pan et Syrinx. La lecture de ce poème et une promenade qu'il fit ensuite au Pont des Vieux sur le Rhône a déclenché une réplique à Pis. Le Pont des Vieux, détruit malheureusement en 1940, était alors un pont suspendu à deux arches. Il avait une forme ravissante, presque arachnéenne. Le Rhône à cet endroit était très large, avec une quantité d'îles couvertes de saules et de peupliers, groupées parfois en rangées de 5 ou 6, qui donnent en effet l'impression d'une flûte antique. Alors, Margotine a été chargée de dessiner le paysage du Pont des Vieux, et ensuite, Claudel a écrit le poème que voici. Air de Syrinx, l'invention de la gamme. De l'air, de l'eau. De l'air, de l'eau. Du bleu, du blanc. Du ciel, du vent. Du clair, du sombre. Une épaule qui brille dans l'ombre. Du foncé, du pointu, du grave, de l'aigu. Une brise, un ouragan. Tu m'entends, vieux Pan, m'entends-tu? Syrinx t'appelle en chantant. Du bleu, du feu, un rire, un cri, une affaire de cris et de cheveux, un tourbillon de cheveux blonds et de rires aigus et de bons. Tourne, tourne avec moi, m'entends-tu, Pan? M'entends-tu, Pan? Penses-tu me saisir? Ah, penses-tu me tenir, vieux Pan, saut Pan, fou Pan? Je monte et je redescends, je remonte par l'échelle, je descends par l'escalier, je danse sur le bout du pied, sur l'escalier du meunier. Penses-tu me saisir? Penses-tu me tenir de tes 10 doigts, vieux Pan? Penses-tu dans la lumière et le sable, jusqu'aux sources du ciel ineffable, arrêter le grand Rhône intarissable? La lune qui se noie, est-ce qu'on la boit, dis-moi? Est-ce qu'on saisit la soie ? Je fuis, je fuis, je fuis, j'appelle, je suis, j'accours, j'échappe. Qui me saisit ? Qui m'attrape ? Sera-ce toi, vieux pan, 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 qui t'en va, clopin, clopin ? Essaie de la tenir, essaie de la tarir, essaie de la saisir. Point de note si basse attaquée que je ne puisse remonter jusqu'en haut du peuplier. Penses-tu m'attraper, pan ? Penses-tu m'attraper, pan ? Penses-tu m'attraper, pan ? Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Penses-tu arrêter le courant inépuisable du clair, du bleu, du ciel, du feu, de l'eau, du sable, entre les saules et les sables de Périeux au pont des yeux, dans un bond, dans un tortillon, dans un flot, dans un tourbillon de rires et de cheveux blonds, dans cette arrivée de grands rires clairs et de grandes nappes claires et glauques, pan, 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 qui t'en va tambourinant. Ah, te crois-tu si savant ? La syrinx t'échappe en chantant, pan, 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 pan. Pan, 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 pan. 31 août 1933. L'année suivante, toujours avec Margotine, mon père a rendu visite à Édouard Herriot, qui habitait un perchoir médiéval dans un site magnifique qu'on appelle le Val d'Amby, tout près de Brangues. Sur la route, en haut d'une colline, il y a un village qui porte le nom d'Optevoz. Il domine le paysage de la plaine du Rhône et des montagnes du Bugey. Ce jour-là, les montagnes étaient surmontées de très gros nuages blancs, et le mouvement de ces nuages dessinait une sorte de ronde au-dessus des montagnes. Là aussi, Margotine a dû, séance tenante, dessiner le paysage, et Claudel Cassic en a tiré le poème que voici, « La danse de Pan ». Autour de Pan, autour de Pan, autour de Pan qui danse, autour de Pan qui danse sans bouger, frappant ses flancs de ses deux coudes, frappant, 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 frappant fortement la terre de son talon, frappant, frappant, frappant fortement la terre de son talon, montagne, donnez-vous la main, autour de Pan sur la colline d'Optevoz, autour de Pan de tous les côtés qui danse, montagne, dansez en rond. Montagne, donnez-vous la main. Montagne, derrière les montagnes. Colline, derrière les collines. Ici, ici, autour de Pan, le pasteur qui vous a toutes convoquées. Montagne, dansez en rond. Montagne, donnez-vous la main. Autour de Pan, votre pasteur qui vous a convoquées. Montagne, dansez en rond. Montagne, donnez-vous la main. Et là-bas, au-delà de l'horizon, les géants, les monstres, les sénateurs s'exaucent pour regarder. Bruxelles, 21 janvier 1934. Pont et Syrinx, pour ceux qui ont lu Protée, est une réplique poétique et réduite à quelques vers de l'intrigue de la pièce. Pan, c'est Protée et Syrinx est Brin d'Osier. Une Brin d'Osier qui a volé à Protée son pouvoir de métamorphose et qui, malgré cela, n'a pu totalement lui échapper puisqu'elle reste accrochée aux lèvres de Pan Protée sous la forme d'une flûte. Pour tout dire et expliquer d'un coup, j'ai entendu mon père, à la fin d'une conférence où il avait lu ce poème, faire ses adieux au public en disant « Le vieux Pan, salut !» L'imagination de Claudel, comme vous le voyez par cet exemple, repose toujours sur un point de départ concret. C'est un caillou jeté dans l'eau qui provoque des ondes indéfinies. L'époque des séjours de Margotine à Brangues était celle où il écrivait Jeanne d'Arc au bûcher, l'histoire de Toby et de Sarah, le festin de la sagesse. Tout le monologue de l'archange Raphaël dans l'histoire de Toby et de Sarah lui a été inspiré par la vue qu'on a sur la vallée de Grenoble à partir de la côte de Voiron, un jour d'automne ensoleillé et brumeux. La pensée chez Claudel émanait directement de sa vision. C'est la vision qui donnait mouvement à l'idée. Il m'est arrivé de le surprendre dans son bureau. Il marchait autour de la pièce en se frottant les mains et faisait en même temps de curieuses grimaces. Quand il parlait, sa main, toujours mobile, donnait l'impression d'aller cueillir le mot au bord de la bouche, et le début d'une phrase, parfois, était précédé d'une sorte d'ébauche de son, comme s'il allait cueillir le mot au fond d'une caverne. Vivant à côté de lui, et réfléchissant plus tard à la masse énorme de son œuvre écrite, dans laquelle il faut inclure les nombreux rapports qu'il a envoyés au Quai d'Orsay, une correspondance importante, je puis dire cependant que je ne l'ai jamais vu accablé de travail ou pressé. Il y avait toujours le temps de la messe, de la promenade, d'une visite à un musée ou une collection particulière, d'une longue conversation. Si l'on se rapporte aux correspondances seulement avec Gide, Jammes, Massignon, Rivière, par exemple, il faut reconnaître que ces lettres touchaient des sujets importants qui à eux seuls auraient suffi à remplir des heures par la réflexion nécessaire à leur rédaction. Pourtant, en même temps, il avait passé plusieurs heures dans la chancellerie de son ambassade ou de sa légation, envoyé des télégrammes et des rapports, rendu des visites officielles, donné des déjeuners ou des dîners, participé à des conférences. Peut-être pourra-t-on une fois reconstituer heure par heure une de ces journées. Je ne désespère pas d'y parvenir grâce à toutes les informations que nous recueillons à travers les lettres que nous retrouvons, les notes de ceux qui l'ont rencontré, son journal, les dépêches du ministère des Affaires étrangères, les articles de journaux ou interviews qu'il a donnés. Mais puisque j'ai le bonheur de me retrouver après 60 ans au Japon, comment ne pas souligner l'intérêt et la ferveur manifestée à l'égard de l'œuvre de Claudel par tant de remarquables artistes et chercheurs, depuis le regretté Isao Yamamoto jusqu'à nos grands amis Moriaki Watanabe, Michio Korimura, Shinobu Shujo, Reiko Kimura, le cher Taro Kimura, qui a suscité la réalisation par une troupe de nos de La femme et son ombre que nous eûmes le privilège d'applaudir en 1972 à Brang. Aussi, quel plaisir pour moi lorsqu'il m'est possible de lire certains de ses travaux quand ils sont publiés en français, notamment par les professeurs Watanabe ou Korimura. Rappelons-nous la mise en scène par Alain Cuny de Tête d'or, jouée par des comédiens remarquables de votre pays et qui fut, me dit Cuny, une expérience inoubliable. Je rends hommage à l'équipe de l'Université Sophia de Tokyo qui, sous la direction de Jean Bézino, publie l'excellente petite revue claudelienne « L'oiseau noir ». Nous aurons bientôt à préparer la publication d'un cahier Paul Claudel consacré à Claudel au Japon qui, comme ceux consacrés à Prague et à Washington, comportera d'importants extraits des rapports, télégrammes et discours de Claudel pendant son ambassade dans votre pays. Mais s'y ajouteront des études littéraires et biographiques sur l'influence du Japon sur l'œuvre de Claudel, influence qui ne cessera plus et provoquera des œuvres aussi importantes que la quatrième journée du soulier de satin, l'oiseau noir dans le soleil levant ou sans phrase pour éventail, et qu'on retrouvera aussi dans un passage de l'œuvre exégétique. Soyez remerciés, chers amis japonais, pour toutes les joies que la fréquentation de votre magnifique pays et de ses habitants ont procuré à Claudel, pour l'ardeur et le talent que tant d'entre vous consacrent à l'étude du poète et de son œuvre. J'espère qu'il nous sera un jour possible de vous prouver notre reconnaissance. Le destin de l'œuvre de Claudel, quel est-il? Nous avons déjà vu comme son œuvre est vivante au Japon. Il en est de même dans plusieurs pays où se sont créées des associations d'amis de Paul Claudel. En Belgique, c'est la reine Elisabeth de Belgique elle-même qui fut la première présidente d'honneur de l'association fondée en même temps que la société Paul Claudel en France. Depuis lors, sous l'impulsion de Joseph Bolli, un bulletin annuel est édité dans lequel sont publiées de nombreuses correspondances de Claudel avec ses amis belges, Léopold Levaux, Francis de Miomandre, Franck Duquesne, entre autres. Les comédiens et metteurs en scène belges se sont toujours intéressés à l'œuvre dramatique et il n'est guère d'années qu'ils ne voient monter une pièce de Claudel à Bruxelles, Liège ou Anvers. Au Canada, sont publiés des cahiers canadiens Claudel par l'Université d'Ottawa. Aux États-Unis, parallèlement à une Paul Claudel Society très active, l'Université de Dallas édite une revue, Claudel Studies, dirigée par Moses Nagy, où sont publiés non seulement des travaux de chercheurs universitaires, mais des traductions de l'œuvre de Claudel, dont certaines, comme Partage de Midi, Protée ou L'Échange, ont ensuite été portées à la scène. Sur l'initiative de Mrs. Bugliani, un fonds Paul Claudel a été créé il y a 2 ans à l'Université Loyola de Chicago. En Grande-Bretagne, pays resté assez longtemps étranger à l'œuvre du poète, nous constatons depuis quelques années un net intérêt chez les universitaires qui y consacrent maintenant des travaux importants. Madame Ida Rampolla, professeure à l'Université de Palerme, préside et anime la société italienne depuis plusieurs années, provoquant de nouvelles traductions de l'œuvre. Des pièces comme Le soulier de satin et L'annonce faite à Marie ont été radiodiffusées tout dernièrement. En Espagne, enfin, la télévision prépare un film sur le livre de Christophe Colomb. En Suisse, le docteur Landau, traducteur de Claudel en langue allemande, a déposé à l'université de Zurich toute sa documentation claudelienne qui constitue un fonds très important, particulièrement pour tout ce qui concerne les œuvres dramatiques jouées depuis 1913 dans les pays de langue allemande. Il a également fondé une association suisse des amis de Paul Claudel. Dans les pays scandinaves, en Norvège, un claudelien éminent, le professeur Truls Winter, a consacré d'importants travaux aux cinq grandes odes et à l'annonce faite à Marie qu'il a traduit et publié. À Copenhague, on jouait cet automne l'échange et en Suède, quelque temps avant, le partage de midi. En Afrique du Sud, dans les universités de Johannesburg, du Cap et de Durham, les études claudeliennes sont très régulièrement suivies par les étudiants et le professeur Shackleton de l'Université du Cap prépare un gros ouvrage sur Claudel. Une jeune étudiante a choisi le difficile sujet de Claudel et Pascal pour sa thèse qu'elle a brillamment soutenue. Enfin, en France, il existe maintenant deux associations claudeliennes. La Société Paul Claudel, qui publie un bulletin trimestriel, et l'Association des Amis du Château de Brangue, dont le but essentiel est de favoriser l'animation culturelle du lieu où repose Paul Claudel. Nous fêterons cet été le 10e anniversaire de cette association qui fut inaugurée si brillamment en 1972 par le président Léopold Sédar Senghor, Jean-Louis Barrault et la compagnie japonaise Izumi qui présenta La femme et son ombre. L'année dernière, nous consacrions le colloque à Claudel, Saint-Jean-Perse, Ségalène, Extrême-Orient et poésie, avec la participation du professeur Watanabe qui nous a parlé de Claudel, Mallarmé et le Japon. Et l'année précédente, lors d'un colloque sur Claudel, confesseur de la foi, le professeur Kurimura, auteur d'un important ouvrage sur le même sujet, présidait et animait la conférence suivie de débats de Don Jean Lémy sur la communion des saints dans l'œuvre de Claudel. Très régulièrement, donc, nos amis japonais nous rendent visite soit à Paris, soit à Brangue, et j'espère qu'ils continueront cette bonne habitude. Dans les projets de ma famille pour créer une fondation Paul Claudel à Brangue, il est bien entendu qu'une place spéciale sera réservée au Japon. Cet été, les 4, 5 et 6 septembre, nous avons choisi pour thème du colloque Claudel, homme de dialogue, dans ses correspondances. Des hommes et des femmes qui ont connu Claudel, comme Barrault, Madeleine Millot, femme de Darius Millot, Marie-Hélène Dasté, fille de Jacques Copeau, Alain Rivière, fils de Jacques Rivière, apporteront leurs témoignages. Autour d'eux, nous grouperons des chercheurs et des artistes et nous souhaitons que ce colloque soit surtout un dialogue entre ceux qui ont connu Claudel et correspondu avec lui et les Claudeliens d'aujourd'hui. En 1983, il s'agira de l'influence de la fonction de l'écrivain à travers l'exemple de diplomates et écrivains célèbres. Non, en 1983, il s'agira de l'influence de la fonction sur l'écrivain à travers l'exemple de diplomates et écrivains célèbres comme Chateaubriand, Gobineau, Claudel, Giraudoux. Mais ce sujet n'est pas encore aujourd'hui exactement précisé. En ces débuts d'année, trois importantes publications ont vu le jour à peu près en même temps. Le cahier Paul Claudel numéro 11, consacré à Claudel aux États-Unis, avec une préface de Jacques Petit, une introduction et des notes de Lucille Garbagnati. Une étude de Jacques Petit sur les manuscrits exégétiques, suivie d'un inventaire de ces manuscrits, maintenant déposés à la Bibliothèque nationale. Et un Paul Claudel 13, des éditions des Lettres modernes, consacré à Claudel et la Bible. Enfin, une importante revue de gauche, Europe, vient de sortir un numéro spécial consacré à Claudel, avec des articles de metteurs en scène qui ont monté Claudel ces dernières années, Barrault, Bourseiller, Lorca, Andelbé, Vitesse, Mesguich, Duceau, Athias, des extraits de lettres de Claudel à Romain Rolland et à Pierre-Richard Bloch, et des articles de Jacques Madaule, Moriaki Watanabe sur Claudel et Leno, Gérald Antoine sur Claudel et les professeurs, etc. La somme des études consacrées à Claudel depuis sa mort est considérable et porte en majeure partie sur le théâtre. Il y a cependant d'importants travaux sur la poésie et quelques-uns assez rares sur la prose. Il y a donc là un domaine considérable à explorer pour les chercheurs, car la prose de Claudel est vraiment très belle. Grâce à Jacques Petit, les annales de l'Université de Besançon ont publié plusieurs éditions critiques, dont la dernière en date est celle de Henri Micciolo sur l'oiseau noir dans le soleil levant. Pour finir, je pense utile de vous informer de la situation en France et à l'étranger de l'œuvre dramatique de Claudel. En France, ces pièces sont jouées régulièrement dans les grands théâtres subventionnés comme la Comédie-Française, le Rond-Point où Barrault a présenté l'intégrale du Soulier de Satin, le Théâtre de la Ville avec la magnifique mise en scène de l'Échange par Anne Delbé, mais aussi d'innombrables troupes de jeunes comédiens, et cela démontre la vitalité de cette œuvre. Actuellement, on joue dans un petit théâtre près de Beaubourg, Protée, et au Théâtre du Rond-Point, un montage dramatique d'Anne Delbé, d'après des textes de Claudel, Mathias, Morard, Rodin, Camille Claudel, intitulé « Une femme », qui raconte la vie dramatique de cette sœur tragique de mon père. Une exposition des œuvres de Camille Claudel est prévue en 1983 au musée Rodin, et l'un de mes souhaits les plus chers serait que cette exposition puisse être présentée au Japon. Le Théâtre national Daniel Sorano à Dakar vient enfin de monter Tête d'or, interprété par des artistes sénégalais, dans une superbe mise en scène de Raymond Hermantier, et nous attendons avec curiosité la tournée en Europe de ce spectacle dû à l'initiative du président Senghor qui présente une interprétation africaine de ce drame. Pour finir, je tiens à signaler que le président Senghor, lors de la dernière réunion de notre comité directeur, a souhaité que soit dressé un inventaire aussi complet que possible des travaux universitaires sur l'œuvre de Claudel en France et dans le monde. Je me permets de vous faire part de ce souhait, en espérant que quelqu'un au Japon voudra bien dresser la liste japonaise de ses travaux. Merci, chers amis, d'avoir bien voulu m'accorder patiemment votre attention et pardonner à la conférencière néophyte que je suis les maladresses de mon petit discours. Alors, j'avais préparé une valise avec les dernières publications. Je l'ai oubliée à l'hôtel, mais je les donnerai à M. Van der Merch avant de partir et vous pourrez les trouver à la bibliothèque de la Maison franco-japonaise.